qu'ils ont prononcé les uns et les autres. C'est d'abord, le dernier, c'est le mot de maison, qu'on pourrait dire famille aussi, la paroisse comme lieu de la maison-famille, de la famille. Et puis, il y a le mot de communion, communion au Christ et communion, engagement de communion avec tous les membres du corps du Christ, ceux qui font partie de la paroisse et ceux qui ne sont pas encore de la paroisse. Et puis, le mot de fraternité. Et là, c'est intéressant aussi de savoir que ce mot de fraternité, c'est le premier mot que les chrétiens ont utilisé pour dire ce qu'ils étaient, un mot qui n'existait pas ni dans la langue grecque ni dans la langue latine avant la naissance du christianisme. Et en même temps, ce mot de koinonia, de maison, de famille, de fraternité, est-ce que c'est tellement facile de le vivre? Alors, mon voisin de gauche, il a envie de dire un mot sur cette question-là.
En fait, je voulais juste préciser une chose de mon point de vue. La fraternité, si vous voulez, ça implique aussi qu'on arrive à vivre avec des gens qu'on n'aime pas tellement. Vous voyez? C'est-à-dire que, je m'explique. Comment, voilà, les gens, on est si différents dans une paroisse. On a des cultures différentes, des modes d'expression différents. Et puis, quand il y a des gens qui se convertissent après avoir vécu des choses galères, ça ne les change pas dans leur mentalité, forcément, ou dans leur morale, ou dans leur vocabulaire. Aussi, on est très tributaire de notre culture. J'ai pas mal voyagé et j'ai été surpris de voir à quel point la foi est soumise à la culture. Alors, ce qui est impressionnant et ce qui est beau, c'est que la foi transcende les cultures. Mais en même temps, on voit bien que ce n'est pas simple de s'aimer comme ça. Enfin, ça ne va pas être cool, on est ensemble, on est bien, tout le monde s'aime. Ce n'est pas ça, en fait, une vie paroissiale. C'est avec des gens avec lesquels je n'aurais pas de lien, je n'aurais pas d'affection particulière. Et pourtant, c'est mon frère. Et alors même que je ne l'aime pas tellement, que je n'aurais pas vraiment choisi de vivre avec cette personne-là, ce n'est pas grave, en fait. C'est-à-dire que ça ne va pas devenir mon super ami. Vous voyez, moi, j'ai été marqué aussi par le cardinal qui m'a ordonné, le cardinal Billet, qui disait... En église, personne est obligé d'être ami, mais nul n'est dispensé d'être frère. En fait, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui m'a appris ce qu'était une paroisse. Donc voilà, c'est pas on s'aime tous, c'est cool l'église. C'est plutôt la fraternité fait qu'on vit ensemble, alors même que je préférais passer du temps avec d'autres personnes que toi.
Alors, il y a une question... Il semble que ce qui fédère vos expériences est la forte implication des laïcs et des jeunes dans l'évangélisation directe des non-croyants ou non-pratiquants. Pouvez-vous préciser cette articulation prêtre-laïc? Alors, on en avait parlé à table avec le père Gréa, alors je lui renvoie la balle aussi. Et puis, en même temps, il y avait une question pour mon voisin de droite. Si le prêtre s'en va, eh bien, qu'est-ce qui va se passer des fruits de la paroisse? Et je crois que les choses vont un peu ensemble.
Alors, je reviens sur la paroisse famille. Dans un livre qui s'appelle « Évangélisation et paroisse », édité par la communauté de l'Emmanuel, on reprend cette phrase de Jean-Paul II qui dit « La paroisse, c'est la famille des familles ». Et nous, sur une des paroisses où je suis curé, on est en train de monter une paroisse famille, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ceux qui font vivre la paroisse, ce n'est pas le prêtre, c'est les paroissiens. Mieux, c'est les familles qui sont là. C'est-à-dire que quand on touche la famille, on touche des plus petits jusqu'aux plus anciens. Donc, une paroisse animée par des paroissiens que le prêtre vient servir. Ben, comme ça, je réponds à la première question sur la paroisse famille, la deuxième sur le lien prêtre-laïc. Et alors la troisième, ce serait plutôt, et qu'est-ce qui se passe quand on part? C'est ça, quand on quitte la paroisse. Donc deux remarques. La première, c'est que si vraiment la paroisse, elle est animée par les paroissiens, le prêtre, il peut partir. Vous voyez? Puisque c'est les paroissiens qui font vivre la paroisse. Évidemment, il faut que le prêtre qui arrive, il soit serviteur de ce qui se vit, qu'il apporte son charisme, qu'il assume sa charge curiale, mais qui serve ce qui se vit. Alors ça me fait reposer une autre question, que Monseigneur pourra y répondre, justement. C'est, est-ce que c'est obligé que les prêtres y bougent tout le temps?
Alors, il avait eu la gentillesse de me prévenir à l'avance. Hein. Mais je crois que là, il y a une véritable question. C'est que je pense Et je pense à ce que le cardinal Lustiger disait, un prêtre, on lui demande de donner sa disponibilité tous les 6 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on va le changer tous les 6 ans. Et je crois qu'il y a quand même une continuité qui est nécessaire et importante. Et personnellement, moi, je me rends compte qu'une dizaine d'années pour un prêtre, c'est un minimum vital. Mais en même temps, si on reste 20-25 ans, ça peut poser d'autres questions. Mais je crois qu'une bonne dizaine d'années, c'est important pour pouvoir enraciner son ministère. Mais quand même, une des questions, et je voudrais la poser à Arnaud Adrien, parce que dans les cellules d'évangélisation, nous, dans le diocèse, on a eu le cas d'une paroisse, eh bien, le curé est parti, et 2 ans ou 3 ans après, il n'y avait plus rien. Alors, Arnaud, je ne sais pas si tu peux...
Alors, la paroisse de Sanary en est à son 3e curé. Et ça continue toujours. Donc c'est quelque chose qui doit se préparer, évidemment, mais les faits montrent que ce n'est pas impossible et que ce n'est pas lié simplement au charisme de l'initiateur. Maintenant, les choses se préparent et un évêque est là pour prévenir, pour prévoir, pour préparer. Voilà.
Moi, j'ajouterais volontiers qu'il y a vraiment une réflexion à faire et au niveau des séminaires, donc je renvoie la balle à Arnaud, en disant il faut vraiment qu'on prépare des prêtres qui seront les serviteurs du Christ auprès d'une communauté. Et je dis serviteur du Christ parce que le prêtre, il n'est pas serviteur de la communauté, ça c'est le Nouveau Testament, il est serviteur du Christ auprès de la communauté. Et ce n'est pas lui qui doit être le propriétaire de tout ce qui va se faire dans la paroisse. Là, il y a vraiment un travail de fond à faire auprès des jeunes prêtres pour qu'ils soient préparés à être pasteurs au nom du Christ d'une communauté.
Je rajouterais juste à ce qui a été dit que, bien sûr, il faut essayer de travailler dans la durée. Mais en même temps, chacun son boulot. Que les évêques fassent ce qu'ils ont à faire pour nommer les prêtres le temps qu'il faut, et que les prêtres fassent leur travail le temps qu'ils sont là. Voilà. Et donc, l'évangélisation, Jésus n'a pas dit « allez dans le monde entier ». Et si vous avez 10 ans devant vous, faites quelque chose de bien. Donc, il y a aussi, là où on est, prendre... voilà, ça me rappelle un prêtre après les JMJ magnifiques de 1997. Moi, je rentrais tout joyeux de ça, etc. Je me dis « oh, ce sera comme les autres, ce sera un soufflet qui va retomber ». Je lui dis, mais il me dit, ouais, parce que c'est quoi après? Il y a quoi après les JMJ? Je lui dis, mais attends, toi, quand tu vas à une fête de famille, tu fêtes, t'es joyeux, etc. Et après, il y a quelqu'un qui vient te voir en te disant, bon, et ça donne quoi ta fête de famille? Mais c'est pas une bonne question non plus. Il faut aussi être capable, pardonnez-moi, mais de jouir un peu. Hein, et de se réjouir de ce qui est et de ce qui est donné dans le temps de l'évangélisation. Est-ce que l'évangélisation durera? Après mon départ de l'île Adam, il faut demander aux laïcs, j'espère bien.
Alors, il y a une question pour le père Gréa, c'est comment auriez-vous fait s'il n'y avait pas eu Thomas et Benjamin?
En fait, l'idée est la même, c'est-à-dire que nous, quand on est envoyé comme prêtre, c'est ce que disait le père Guy-Emmanuel, c'est-à-dire que on fait avec les gens qui sont là et selon les charismes, l'Esprit Saint souffle. On n'a pas besoin de gens hyper compétents. Je n'aurais pas fait quelque chose avec la musique. On serait parti sur d'autres propositions. En fait, ce qui me semble essentiel dans ce qu'on essaye de dire là, pour vous renvoyer la balle vraiment, c'est que la paroisse est dans vos mains. Vous voyez, l'Esprit souffle dans vos cœurs. Tout à l'heure, on a parlé aussi c'est le père Arnaud qui disait le sacerdoce commun des fidèles. Vous êtes prêtre par votre baptême. Vous voyez, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez déployer comme grâce? Et alors, si vraiment c'est ces grâces-là que vous déployez, pour le prêtre qui arrive, c'est cool. Je veux dire, parce que nous, on a juste à ramasser, à organiser, à stimuler, à encourager. Donc, la question, c'est est-ce que vraiment les paroissiens vivent de leur baptême, vivent de la grâce de Dieu, vivent de l'Esprit Saint. Et nous, on va aider à discerner les dons de l'Esprit. Et alors après, voilà, c'est pas... Je sais pas comment dire. Il y a toujours assez de gens pour faire des merveilles.
Alors là, il y a une autre question qui est adressée aux 3 prêtres et réponse si possible aussi de Monseigneur. Beaucoup de curés disent qu'ils évangélisent à longueur de semaine dans la pastorale sacramentelle et catéchétique confiée aux paroisses. En quoi est-ce aujourd'hui insuffisant ?
Je pense que ça s'adresse aux curés et aux laïcs aussi, puisqu'il y a beaucoup de laïcs engagés dans l'action catéchétique, préparation au sacrement, etc. Et sûrement un certain nombre parmi vous. Et vous savez bien qu'il y a une annonce de l'Évangile. Enfin, ce serait aberrant de préparer au baptême, par exemple, sans parler de la bonne nouvelle du baptême, ou même de préparer... J'ai une équipe d'accompagnement des familles en deuil sur ma paroisse. Ils parlent de la vie éternelle, ils parlent de la résurrection des morts. Donc ça, c'est une évangélisation, of course. Hein. Mais c'est le rapport entre aussi l'intérieur et l'extérieur. Le but, c'est pas de former simplement des communautés minimales. Moi, le père Adrien l'a dit tout à l'heure, le but, c'est l'intégration de l'humanité autour de l'autel, enfin, l'intégration eucharistique. Hein, c'est une joie d'être chrétien. Il y a quelque chose à partager par-delà les murs aussi des gens qui viennent nous voir. Et ça relance tout ce qu'on a dit ce matin aussi sur l'évangélisation des moyens de communication, etc. Il n'y a aucune limite, nos limites, comme disent les jeunes. Hein, donc il n'y a aucune limite à cette action, à ce débordement. Alors il y a le travail évidemment de transmission. On voit bien que quand on prépare au mariage aujourd'hui, ben, on n'est pas vraiment à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est, on a beaucoup de jeunes qui débarquent de la Terre, en fait. Pas de Mars, mais de la Terre, qui ont peut-être, qui pensent peut-être que nous, on vient de Mars, d'ailleurs. Hein. Donc, il faut bien qu'on leur montre qu'on est de la Terre aussi. Et puis, bien sûr, il y a une évangélisation qui se fait à ce moment-là. Moi, je crois que là où ça ne suffit pas, c'est que l'Église, elle a forcément un goût de lac de Tibériade, quoi. Hein. C'est-à-dire, elle est au vent du lac de Tibériade. S'il manque ça, s'il manque ça vers l'extérieur, il manque quelque chose à l'intérieur.
Mais ce prêtre qui dit qui sera sûr, disons qu'il évangélise dans sa pastorale sacramentelle. Il n'a pas compris sans doute que c'est la communauté paroissiale elle-même qui doit être structurée pour être une communauté missionnaire. Et c'est ça la révolution, si je puis dire, de pensée. C'est qu'il faut que sa communauté soit en elle-même missionnaire, structurée de telle manière qu'elle est capable à tout moment d'accueillir des personnes nouvelles. Donc il faut créer les conditions d'accueil, le bassin de réception. Par exemple, Alpha est intéressant. Est très, très utile. Et l'insuffisance vient d'où ? Vient du fait que c'est une étincelle qui démarre et qui est capitale, très précieuse, mais il n'y a pas de bassin de réception permanent. Donc il faut qu'il structure, pour lancer Alpha, il faut qu'il structure sa paroisse de telle manière qu'il y a un bassin de réception régulier, constant, qui fait faire l'expérience chrétienne. Et en dehors des petites communautés qui rassemblent ces gens-là, je ne vois pas d'autres réponses.
Oui, moi je voudrais simplement dire, il y a souvent une expression qu'on utilise et qui est très mauvaise, c'est de dire il y a la pastorale d'entretien, puis il y a la pastorale missionnaire. Et il y a beaucoup de curés qui sont un peu agacés ou de paroissiens par cette expression pastorale d'entretien. Moi je pense vraiment, comme ça vient d'être dit, que c'est toute la paroisse, toute la vie de la paroisse qui doit être missionnaire, et avec tous ceux qu'on accueille pour les sacrements, et avec tous ceux où on doit jeter le filet au large pour rejoindre ceux qu'on ne rejoint pas habituellement. Alors maintenant, une autre, il y a deux questions qui sont un peu voisines, qui partagent la souffrance de ceux qui les ont écrits. Notre diocèse, notre paroisse, notre curé est encore très loin de l'évangélisation dont vous parlez. Que faire ? Partir ailleurs ? Continuer à prier ? Adorer en silence comme on le fait depuis 30 ans. Voilà. Et l'autre question qui est, la nouvelle évangélisation ne concerne-t-elle que le milieu urbain ? Quid des campagnes isolées ? Alors, si les laïcs veulent faire bouger les paroisses par des chants nouveaux, l'évangélisation, etc., et que le prêtre est fermé à toutes les propositions, que pouvons-nous faire à part quitter cette paroisse, en chercher une qui nous convienne? Messieurs les curés, à vous la parole.
Il faut bien se dire que si l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne, c'est qu'il y a de la marge entre la source et le sommet. Donc c'est pas, l'Eucharistie, ce n'est pas le tout de la vie de l'Église, vous voyez. Et le commencement de la vie chrétienne, c'est le baptême. Ce n'est pas l'Eucharistie, le commencement, c'est le baptême. Donc, avec ça, vous avez assez d'éléments pour créer. Si jamais on ne peut pas chanter de chants nouveaux, récents, ou je ne sais pas quoi, qui vous plaisent à la messe, chantez-les le soir. Ou avant la messe, je ne sais pas, sans le curé, on s'en fiche. On n'a pas besoin du curé pour prier, c'est quoi, c'est une nouveauté. Vous rassemblez les gens que vous aimez, avec qui vous entendez bien, qui ont envie de chanter, et vous chantez. Dans la campagne, j'arrive de chez ma mère qui est dans le Jura, c'est la catastrophe, hein, franchement. Enfin, c'est vraiment rude. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Moi, je pense qu'il faut inventer, c'est sûr, mais des petits groupes, s'ils sont deux ou trois, ils arrivent à se retrouver, partager ensemble la parole de Dieu, prier ensemble, se soutenir. Mais en fait, il ne faut pas chercher des grandes choses. Vous voyez, les exemples qu'on a donnés, ils partent toujours de petites choses, de deux, trois personnes. En fait, la soif, elle est là. Notre foi, elle est ferme. Commençons à faire à notre mesure. Comme disait Saint-Philippe, enfin, tout à l'heure, on entendait que Saint-Philippe disait « Moi, je suis responsable de ce qu'il y a au bout de mon bras jusque-là. » Ben voilà, chacun de nous aussi. Mais vous avez le droit de lancer des choses, vous avez le droit d'inaugurer, vous avez le droit d'inviter, vous avez le droit de faire des trucs, quoi. C'est pas obligé de dépendre du curé pour quoi que ce soit. Et dernière chose par rapport au fait, est-ce que je dois aller ailleurs ? Bon, là, c'est le curé de paroisse qui parle. Ressourcez-vous. C'est-à-dire, on ne fait rien si on ne se ressource pas. Et s'il faut aller ailleurs pour se ressourcer, allez ailleurs. Mais deux, une fois que vous êtes ressourcé, il faut être dans sa paroisse, quoi. Vraiment, c'est là que Dieu vous a mis. Il faut rester là.
Oui, je redis cela avec conviction. De fait, c'est que vous n'avez pas besoin de l'autorisation de votre curé pour prendre l'initiative missionnaire évangélisatrice. Vous pouvez vous-même. Alors c'est vrai que c'est plus dur peut-être, mais vous avez la grâce qu'il faut pour créer des noyaux évangélisateurs. Vous tenez au courant votre curé de ce que vous faites, mais s'il vous s'il dit « je veux pas », ben vous restez calme, et puis... Et puis vous continuez.
Je dirais juste une chose que vous pouvez dire. Je cite le pape Paul VI. L'Église existe pour évangéliser. Point.
Alors, point. Il y avait une question pour... voilà.
Ok, je la lis. Suite à l'observation de l'Église Hillsong et la remarque des Pouzins sur l'excellence... Quelle place doit prendre cet aspect dans la mise en place des nouvelles manières d'évangéliser ? En fait, quand on parle d'excellence, c'est vrai que c'est un mot qu'on leur a pris. Quand ils sont venus à Toulon, vous savez qu'ils sont venus à Toulon, l'église d'Hillsong, pour animer une soirée de louanges. La jeune femme qu'on appelle la worship leader, elle a dit une chose, le monde donne les marques, par exemple, que nous on voit, Nike, Adidas, donnent le meilleur à leurs marques. Et les gens dans leur société donnent le meilleur et investissent des millions dans leur marque et de l'excellence. Et nous, pour notre Dieu, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va donner le meilleur aussi, on va donner de l'excellence. Après, c'est facile de dire ça. Maintenant, comment on fait concrètement dans nos manières d'évangéliser ? Il y a quelque chose que tout à l'heure on n'a pas dit, mais avec Tom, c'est vrai qu'on a reçu un appel. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on a pris le choix de poser un acte de foi, de dire « Seigneur, nous croyons que tu nous appelles à donner notre vie pour la musique. » Et donc, on va prendre des risques pour la musique. On ne va pas faire ça juste le week-end. On ne va pas faire ça juste à la fin de la semaine, le vendredi soir, de 7 à 8. Non, on va se donner pour toi. Mais c'est un appel qu'on a vraiment reçu. Et qu'est-ce que ça fait après, quand vous prenez ce temps ? Eh bien, vous répétez, vous vous formez. Parce que ça ne tombe pas comme ça du ciel, hein, la musique. Hein. C'est comme si je disais demain matin, je suis architecte. Voilà, je vais devenir architecte, je vais construire une maison. Je ne sais pas faire, mais ce n'est pas grave. Ben, c'est exactement pareil en musique. Et en louange, c'est la même chose. Vous savez que l'église d'Hillsong, ils font des castings. Ils font des castings pour les gens qui vont chanter. C'est-à-dire que c'est des chrétiens qui viennent, mais les auditionne. Il les auditionne. Donc, on n'en est pas encore là dans l'Église catholique, mais ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose de l'excellence. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous voulez que je vous dise une chose ? Et ça, c'est notre cœur qui parle. C'est notre cœur qui parle. La musique de piètre qualité, non seulement ne fait pas prier, mais un contre-témoignage.
Une toute petite remarque, en fait, c'est que ça, la question que ça pose, là, comme dit Jam, il faut, pour pouvoir faire les choses bien, il faut du temps. Pour pouvoir donner du temps, il faut pouvoir vivre. Ça pose de grandes questions aussi financières, hein, réellement. Et on en parlait en venant dans la voiture. Il y a un petit passage dans le chapitre 13 du livre de Néhémie. Néhémie, il arrive dans le temple et il fait « Mais où sont les chantres ? Où sont les gens qui servent ? Où sont les gens qui font vivre la maison du Seigneur ?» Et on lui répond « Bah, ils sont au champ, parce qu'il n'y avait personne pour les payer. Ils sont allés au champ, ils sont allés faire autre chose pour subvenir à leurs besoins. » Et donc Néhémie fait « Ramenez-les, et là, dans ce cas-là, on va se débrouiller, on va trouver de l'argent pour payer des chantres, pour payer pour que la maison de Dieu, elle vive. » Elle vive et elle vive bien. Et voilà, et c'est vraiment hyper important. On est souvent capable de mettre beaucoup d'argent pour beaucoup de choses. Et puis, il y a certains domaines où on se refuse à ça. Voilà, nous, on souhaite vraiment se battre et pousser les choses pour que dans l'Église aussi catholique, soit l'art soit retrouve une place d'excellence. Elle l'a eu, cette place d'excellence, dans le passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se contente souvent de choses un peu faites à l'arrache. Et c'est dommage, il y a besoin de qualité. Il y a besoin de qualité et les gens sont touchés par la qualité. Quand quelque chose est beau, eh ben on a beau croire ou pas croire, on est touché par ce beau. Voilà, et c'est important qu'on tire vers le haut en permanence, vers le beau, vers le grand, pour le Seigneur.
Oui, j'ajouterais avec un peu d'humour que j'espère qu'on écrira un jour un livre sur l'histoire des frères Pouzin et sur la manière dont les artistes, au début, ils sont un peu incontrôlables. Hein. Ils ont plein de projets merveilleux, tout ça. Mais il faut apprendre à se laisser driver. Il faut qu'il y ait des gens qui les drivent. Et je trouve qu'il y a un chemin qui a été parcouru qui est formidable et fabuleux. Et j'espère que ça va porter des fruits en surabondance. Alors, maintenant, j'ai deux questions. Il y avait un nom, mais je ne vais pas le dire. Je suis convaincu par ce que vous dites. Simplement, comment êtes-vous sûr de ne pas suivre vos propres désirs et ambitions ? Comment discernez-vous la limite dans laquelle nous pouvons utiliser les moyens actuels de façon juste ? Son, lumière, apparence vestimentaire, etc. Et l'autre question, c'est quelle a été la place de l'écoute du Seigneur dans votre projet. Comment avez-vous accueilli cette intuition comme venant de Dieu ? Est-ce qu'on est sûr que ça vient de Dieu ? Comment on peut le savoir, etc. Voilà la question.
Moi, je suis plus à l'aise debout. Je ne vais pas donner une réponse charismatique parce que ce n'est pas mon truc, en fait. Je ne viens pas de là, moi. Pour discerner ce que Dieu fait, il faut avoir fait un peu de théologie. C'est-à-dire que prier, c'est important. Connaître la Bible, connaître l'interprétation de la Bible, savoir l'histoire de l'Église, c'est important pour ne pas se tromper, au fait. Quand on sait ce que Dieu a fait, quand on connaît les erreurs de l'Église ou d'autres pasteurs, eh bien, ça nous donne non seulement une intuition, mais aussi des critères de discernement. Premier point. Deuxième point, on est catholique. Donc on a des pasteurs avec nous. Et ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a, pour nous, en tout cas, on est passé devant l'équipe d'animation paroissiale, le conseil paroissial, et puis évidemment, en amont, le responsable de la pastorale des jeunes, et encore notre archidiacre, un vicaire épiscopal, et le cardinal, bien sûr. Donc c'est vérifié. Enfin, on est là pour répondre à l'Esprit Saint. Mais vous voyez, une fois qu'on a des garanties qui nous sont données, on peut se confier totalement au vent de l'esprit. Alors à ce moment-là, en effet, c'est une soumission totale. Et il y a un mois, on s'est dit, voilà, Lyon Centre, ça marche super. Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter ? C'est-à-dire, ce n'est pas parce que ça marche qu'on va continuer. On va continuer si c'est vraiment un appel de l'esprit Et s'il faut changer ça, s'il faut faire du neuf, on fera du neuf. Et vous voyez, donc il faut être prêt à tout perdre, parce que ce qui importe, ce n'est pas qu'on fasse une œuvre, notre œuvre en quelque sorte, c'est qu'on soit docile. Mais on a quand même un magistère qui nous est donné, une église qui est corps. Deux, on a de la théologie, une histoire de l'église et des capacités intelligentes de comprendre ce qu'il faut faire. Et trois, on a la prière, la vie de l'esprit à laquelle, évidemment, c'est tout le but, il faut se soumettre. Alors maintenant, quelles sont les limites dans les moyens qu'on utilise ? En fait, comme on sait, tant que les moyens ne sont que des moyens, il n'y a pas de limite. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment à quoi servent ces moyens ? Est-ce que vraiment on honore le but ? Vous voyez, ce n'est pas seulement utiliser Internet, utiliser la musique, utiliser un style. Ça, c'est un moyen qu'on se donne, donc c'est une inculturation, comme on dit, mais en vue de quelque chose. Et c'est ça qu'il faut discerner. Parce que c'est ça qui va contrôler, qui va vérifier et qui va nous permettre aussi de réévaluer ce qu'on a fait. Maintenant, les tenues et tout ça, mais voilà, enfin, il faut qu'on soit nous-mêmes. On ne va pas se dire, comme je suis catholique, je dois m'habiller comme ci, me comporter comme ça. C'est quoi, c'est une morale, notre truc ? Non. Non, on est nous-mêmes, simplement on a la foi, on la vit, et par contre, on sait vraiment où on va, ce qu'on veut dire. Alors oui, ça marche.
Je voudrais poser moi une question. Depuis deux jours, je suis harcelé par quelques personnes qui me disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'acteurs qui ont joué des faussement des prêtres pour de la pub ?» Alors, je ne sais pas s'il y en a un qui veut répondre.
En fait, il y a eu une campagne de pub pour la Journée mondiale des vocations qui est aujourd'hui, demain. Et donc, il y a eu, je crois, 3 ou 4 clichés qui ont été pris. Mais avec des mannequins à la place de vrais prêtres. Bon. Voilà, c'est peut-être critiquable, mais ce n'est pas la fin du monde non plus. La réponse du père Poinceau qui s'occupe du service national des vocations, c'était de dire que c'est difficile de tout focaliser sur une personne connue de tous, etc. Donc on prend un mannequin qui fait ça, bon... Je n'ai pas l'impression que c'était des playboys particulièrement. Ils peuvent être prêtres, enfin, physiquement.
Arnaud, il y a quelques questions pour les formateurs de séminaire. Alors, je lui passe le micro.
À écouter les témoignages, il semble que les prêtres sont plus formés par des communautés vivantes et fraternelles. Pourquoi y passent-ils aussi peu de temps dans leur formation, sauf les séminaristes qui le choisissent personnellement? Alors tout dépend de la spécificité canonique de ces communautés. Pour prendre des exemples concrets, par exemple le chemin néo-catéchuménal. Il est reconnu par l'Église universelle comme un lieu de formation. Donc cette communauté qui a fait naître, des vocations, est habilitée à les former. Et vous avez des tas de communautés qui donnent naissance à des vocations, mais qui ne sont pas habilitées à les former. Pourquoi ? Peut-être parce que leur envergure n'est pas assez suffisante. On est prêtre, non pas d'une communauté, on est prêtre de l'Église. Donc c'est l'Église, on dépend d'un évêque, et c'est l'évêque qui... permet à ce moment-là, qui crée la structure de formation. Sauf si Rome octroie à des communautés religieuses ou à des communautés de type le chemin, etc., des lieux de formation propres. Vous voyez, on n'est pas les prêtres d'une communauté, on est les prêtres de l'Église catholique, on est ordonné par un évêque. Ce qui fait que les séminaristes de la fraternité missionnaire, par exemple, ou d'autres communautés chez nous, ne sont formés par cette structure que l'évêque a mis en place et à qui il a donné la mission de former les prêtres. Voilà, on est les prêtres de l'Église catholique.
Il va falloir qu'on s'arrête. Je voudrais finir en relevant les deux dernières questions et une minute. C'est vraiment, l'évangélisation concerne tout le monde. Elle appelle une conversion pastorale des communautés, mais aussi des prêtres et des laïcs. Elle exige aussi une conversion des évêques pour entrer dans une nouvelle étape de la vie ecclésiale. comment aider, et c'est souligné, comment aider les évêques à vivre cette conversion, point d'interrogation. Et il y a une deuxième question voisine, pourrions-nous aussi parler de l'appel à la conversion, partie essentielle du kérigme, non seulement dans la première annonce, mais aussi en approfondissement pour tous ceux qui sont déjà engagés dans l'évangélisation. Ben, je crois que la conversion, c'est quelque chose de permanent. Et tout à l'heure, on célébrera l'Eucharistie. Moi, je pense que c'est fondamental qu'on demande la grâce de la conversion. Et moi, je peux dire personnellement, le jeudi saint, j'ai voulu en même temps dire que je demandais pardon à tous ceux que je pouvais blesser et que je donnais mon pardon pour qu'ensemble, on puisse dire le Notre Père. Et je crois que l'appel à la conversion des évêques, ils n'ont pas le cœur plus dur que les prêtres, du moins je le pense, et il faut donc qu'ensemble on porte nos prêtres, nos évêques dans notre prière pour qu'ils puissent vraiment être les pasteurs. C'est le dimanche du bon pasteur, alors priez pour que les pasteurs soient vraiment les serviteurs de celui qui est le bon pasteur, qu'ils soient signe et moyen de la présence du Christ, seul bon pasteur, au milieu de son église. On prend un chant et ensuite on va se préparer à passer aux actes.